est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième mardi du mois, lundi du mois, pardon, par ses militants sur le 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du 29 mai 2023 du Monde Merveilleux d'après. L'agitation sociale de ces derniers mois ne doit pas faire oublier que la lutte se poursuit aussi au quotidien dans les entreprises. Nous recevons Cédric et Vincent, deux militants de la section syndicale du film d'animation du CIPMCS. Parce que le syndicat, l'Union des travailleurs, a pour vocation d'améliorer les conditions de travail, mais aussi de s'opposer à la régression des acquis sociaux ou les modifications insidieuses et défavorables du contrat de travail, c'est la guerre de classe. On m'entend là ? Non, on m'entend pas. Pareil. En cette journée internationale des casques bleus que l'on ne voit pas dans nos rues pour la défense des casserolades et des marmitades, il n'y a pas. Qui mieux que les soldats de la paix sauraient mieux défendre les droits des travailleurs contre la bande à Picsou, vous le saurez, à l'écoute du monde merveilleux du travail, de l'animation 3D. Et tout de suite, nous retrouvons la chronique sociale de Nicolas Flamel, qui est resté une année durant à méditer dans la grotte du Perleleu ce soir. Sacré union.
Je suis un troubadour perdu, venu d'un autre Moyen-Âge. J'ai voyagé comme j'ai vécu, au cœur de la chimie des sages. Je suis dans le bateau des ondes et je ne chante que pour elle. Ma mort sera la fin du monde. Je m'appelle Nicolas Flamel.
Nous sommes en guerre. Chères auditrices et auditeurs, au nom des camarades du syndicat des rhinolophes des grottes de l'homme, du serpent et de la cuillère réunis, je vous salue. Je le rappelle, c'est suite à l'écoute de ces émissions et fort des enseignements qu'elles prodiguèrent que les résidents de ces grottes ont fondé le SRG HSCR, dont l'ambition est la défense et l'amélioration des conditions de vie de tous et toutes les rhinolophes, les grandes comme les petites, par l'action de toutes et de tous. Oui, nous sommes en guerre, et dans la guerre engagée depuis bientôt plus de 5 ans, le peuple français a pour lui le droit, dont la classe bourgeoise, non plus que les oligarques, ne saurait impunément méconnaître l'éternelle puissance morale. Le peuple sera héroïquement défendu par toutes et tous, ses filles, ses fils et l'ensemble des rhinolophes. Rien ne brisera devant l'ennemi la sacrée union et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi révolutionnaire. Certaines fines oreilles auront reconnu en cette solennelle déclaration Une paraphrase de Raymond Poincaré, ni rond ni pointu. Mais un sacré trou du cul, introduisant, Eric, là, rien, la notion d'union sacrée.
Je vais introduire.
Ouais. Et déclenchant la guerre, profitant de la mort bien opportune du pacifiste, chef de la section française de l'Internationale ouvrière, Jean Jaurès. Ça avait encore de la gueule, les socialos, avant qu'ils s'appellent socialos, jusqu'à l'assassinat de Jaurès, quelques jours avant, par le vilain Raoult. Un revanchard nationaliste, influencé par la fachosphère du temps, notamment Action française. Girard, reviens, reviens, Action française a besoin de toi. Girard, reviens. Bien que réformiste, honni des mouvements révolutionnaires de la fin du 19e, le camarade Jean avait eu le bon goût de s'opposer aux lois scélérates et de dénoncer la collusion d'intérêts économiques entre les politiques et la presse. On peut facilement faire le lien avec les actualités où une poignée de milliardaires possèdent les principaux médias pour propager et encenser les horribles discours mielleux du capitalisme. Oui, nous sommes en guerre. Faire le lien avec les lois scélérates est moins accessible. Disons simplement qu'abrogées il y a seulement 30 ans, elles censuraient la contestation et que les gouvernements de l'ordre, les remettent au mauvais goût du jour, notamment en dissolvant certaines organisations contestataires. Rappelons aussi l'existence du carnet B, créé quelques années auparavant par ce grand humaniste, le général Boulanger, dont le fichier S est le digne descendant. Descendant. Perdu par d'aléatoires prises en charge médicales ou de précis tirs de LBD, nous devions en parler un peu parce que nous sommes en guerre, on s'en prend plein la gueule et contester peut coûter un œil. Mais je voudrais plutôt passer la parole aux camarades du SIPM, section animation, que développer le rapprochement historique avec cette période de la fin de la paix en 1914, le devenir de la section française de la SFIO, donc, et la nécessité d'une grande union. Parce que ce qui nous sépare importe moins que ce qui nous unit, selon les mots des Gilets jaunes d'Auxerre. Parce que c'est ici et maintenant qu'ils font la révolution. À vous la parole, Vincent et Cédric, et à nous de nous syndiquer, si ce n'est déjà fait. Here we go. For the fight auto workers who are twisted, tricked and robbed. To the peasant in Guatemala in a sweatshop got your job. And she can't feed her family on the pennies that she makes. Meanwhile the crime rate's rising up and down the Great Lakes states. Vegetables left in the field, the signatures smell rotten, and the contracts and the deeds that push the race down to the bottom. As they load the rubber bullets, as they fire another round, I'm heading to the tear gas. Dig in, man, hold your ground. For Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. For our brothers and our sisters up and down that picket line. For the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. For the union men and women standing up and standing strong. Help! That's right. Si nos queremos juntos vamos a ganar. Si! Y'all hit them where it hurts and bite the hand that feeds. You might get 1 to 3 or probation and a fine. Well, I know where I'm gonna be. I'm gonna be right on that front line. For Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. For our brothers and our sisters up and down that picket line. For the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. For the union men and women standing up and standing strong. Help!
Dirty scabs will cross the line while others stand aside and look. But ain't nobody never got nothing that didn't raise a voice and push. Like the steel worker in Ohio
the miner in West Virginia, the teacher in Chicago, janitor in Mississippi. From the sweatshops of LA to the fields of Mission Flats, there's a thundercloud exploding, and I'm free at last. Like Joe Hill and Cesar Chavez, who fought in their own time. Like our brothers and our sisters up and down that picket line. Like the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. Like the union men and women standing up and standing strong. Like the unnamed and unnumbered who struggle brave and long. Like the union men and women standing up and standing strong.
Alors, chers camarades, vous n'êtes pas encore présentés, mais qui est-ce qui chantait ? Le groupe ?
Je sais
pas. Ouais, voilà. Alors, c'est le groupe, c'est Night Watchman, et notamment conduit par Tom Morlow. Tom Morlow, ça vous dit rien ?
Non.
Rage Against the Machine, ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, bien sûr, oui.
Voilà, bah, c'est le guitariste qui fait partie des IVV, Industrial Workers of the World, camarades.
Ils ont le mal en gauche, hein, j'avoue.
Eh bien, justement, il a le chat sur sa guitare. Voilà, bon, la chanson Stay Nuansang.
C'était pas Joe Hill. Joe Hill aussi, il était à l'IWW.
Ouais, un jour, j'espère qu'on fera une émission sur Joe Hill. J'ai plein de musique à mettre. Bien qu'il en ait enregistré aucune. Bon, ce soir, on reçoit Cédric et Vincent. On vous remercie d'être venu, parce que normalement on devait faire une émission avec Jérôme Rodriguez, mais qui n'a pas pu être là, donc vous êtes venu. Enfin, avec Cédric, on en avait déjà discuté de faire une émission, mais c'était pas prévu qu'on la fasse spécialement là, aujourd'hui, donc merci de précipiter.
C'est un plaisir.
Donc, vous allez nous dire de quel syndicat vous appartenez, quelle section syndicale, dans quoi vous travaillez.
Bien, on est adhérent.
Qui vous êtes.
Oui, voilà. Ben, on est adhérent au SIPMCS, donc le syndicat interprofessionnel média culture spectacle, et on travaille dans le film cinéma d'animation, donc sur des gros longs métrages hollywoodiens, notamment les Minions et dernièrement Super Mario. Mais je vais laisser Vincent aussi parce qu'il travaille.
Moi j'ai bougé, je bossais avant justement aussi à Monsieur McGuff, mais j'ai bougé. Et moi je bosse maintenant, enfin plus ou moins, parce que les intermittents c'est toujours pareil, c'est selon les moments, à Micros Animation à Paris. Voilà.
Eh bien merci, au revoir.
Non, mais du coup,
donc vous avez créé, vous êtes rencontré. Alors,
ouais, comment est-ce qu'on s'est rencontré ?
Vous avez créé une section syndicale parce que vous n'étiez pas toujours. Vous êtes d'abord travaillé et après vous êtes syndiqué.
Ouais, voilà, on travaillait dans la même entreprise, du coup, qui s'appelle Illumination MacGuff, qui a changé de nom depuis. Et en 2016, en gros, on a chacun un peu de notre côté, d'ailleurs, ce qu'on se disait. En fait, on a milité de notre côté parce que c'était, en fait, en grande partie, parce qu'il y avait un certain immobilisme au sein de notre entreprise. Les délégués, enfin, les représentants qui étaient élus se mobilisaient pas trop pour les questions d'intermittents du spectacle, notamment, et les syndicats non plus. Et en gros, le constat qu'on s'est dit, c'est l'autogestion, quoi. Si on a envie que ça bouge, faut que ce soit à nous de le faire. Voilà. Et
l'autogestion de la boîte.
Alors, on aimerait bien. On en parle souvent avec notre patron qui en rigole, d'ailleurs. Mais oui, non, c'est vrai que c'était un peu le but. Donc après, on s'est rencontrés lors de manifestations, simplement. Et moi, j'ai été d'abord adhérent à la CGT avant de venir à la CNT. J'ai une première expérience des rétro satanas.
Ouais, mais tu vas voir. Justement, on a limité la liste de ce qu'on avait à dire sur la CGT, justement.
Mais ça, en fait, d'ailleurs, l'erreur peut-être à pas commettre, c'est de penser que on ne peut que aller dans un syndicat qui est représentatif dans une branche où on travaille, parce que c'était un peu, par mes connaissances, ce que je m'étais dit, d'aller dans un syndicat qui avait la représentation et qui pouvait nous aider parce qu'il était bien conscient de ce qu'il fallait faire. Et au final, ça n'a pas du tout été le cas. On s'est rencontrés pendant les manifs d'intermittents du spectacle. Et à cette occasion, on a rencontré le délégué général du SPIAC CGT, qui s'occupe de la branche cinéma de la CGT. Voilà, et notamment de la et il est dans la CGT spectacle. Voilà. Et la CGT spectacle est vraiment très mobilisé sur les questions des intermittents. C'est par ce biais-là que moi je suis rentré et que j'ai trouvé que le travail qu'ils faisaient à la CGT Spectacle était très correct. Mais après, moi personnellement et d'autres, on a été très déçus un peu de comment le SPIAC CGT, particulièrement ce syndicat, travaillait finalement. Mais je sais pas, je vais laisser Vincent un peu plus.
En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un gros souci par rapport à. On va pas rentrer dans le détail exactement, mais en gros, par rapport à des contrats qui ciblaient un certain type d'employés, je dirais, de la boîte. Mais ça représentait quand même un tiers de la boîte. Et c'était une grosse boîte à l'époque qui a grossi depuis. Ça représentait 100 personnes sur 300. Et on a demandé de l'aide au SPIAC. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que SPIAC nous a dit mais vous n'êtes pas adhérent chez nous, donc on vous aide pas, quoi. Et on s'est retrouvé à aller négocier avec le patron un par un dans son bureau, quoi. Donc du coup, on n'a pas vraiment apprécié, c'était le début. Ça tiquait déjà un petit peu de ce côté-là, quoi.
Voilà, après, si je peux parler spécifiquement de la structure.
Peut-être vous avez adhéré ensuite à l'issue de cette première...
J'étais le seul à adhérer au SPIAC.
D'accord.
Et moi, j'avais pas ces problématiques, je les connaissais pas, celles que Vincent évoque.
D'accord.
Enfin, je les connaissais, mais j'étais pas concerné. Et au sein du syndicat, je venais tout juste d'arriver, donc en fait, j'étais même pas au courant de ce qui se passait. J'étais même pas au courant que les syndicats agissaient dans notre entreprise, la vérité. Donc, non. Mais par contre, effectivement, ce qui m'a un peu motivé en revanche à adhérer à un syndicat, c'était qu'il y avait des élections professionnelles qui arrivaient. Et par rapport à ce que je disais au début, qu'il y avait un certain immobilisme de la part des élus dans l'ensemble de la boîte, c'était de se rapprocher d'un syndicat pour faire une liste syndicale et se présenter au premier tour des élections professionnelles. Et on n'avait pas d'autres contacts ailleurs, donc c'était un peu la porte ouverte pour eux de nous aider, etc., à comprendre. Et ce que je peux leur reprocher au final, après y avoir passé 3 ans, c'est parce que mon expérience à la CGT, c'est que de 3 ans, c'est qu'il y a une structure vraiment pyramidale. Il y a des personnes qui sont salariées permanents, ce qui peut poser certains problèmes parce qu'ils sont en CDI, ces salariés permanents, et que s'ils se comportent mal, ou du moins s'ils agissent un peu pas comme on le souhaite en tant qu'adhérent, on n'a pas la possibilité, enfin ce serait malvenu de virer un salarié permanent dans un syndicat, donc ça pose pas mal de questions. Puis même au-delà de ça, il y a une méconnaissance du milieu de ces personnes-là, parce que la personne en question, sans vouloir la cibler, mais je pense qu'elle se reconnaîtra sans doute si elle écoute, c'est qu'elle était assistante parlementaire, donc passer de assistant parlementaire à délégué général d'un syndicat, c'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, et en gros, toute la structure de la CGT, en tout cas spectacle, c'est vraiment structuré, mais même c'est une pyramide hiérarchique, même si ça, c'est pas la même pyramide hiérarchique qu'on peut trouver dans des entreprises, évidemment.
C'est-à-dire que les syndicalistes de la CGT, celui dont tu parles, c'est une espèce de salarié du travail, quoi.
Ouais, et en fait, je pensais qu'il était adhérent et qu'il avait un mandat pendant très longtemps, et assez tardivement, je me suis rendu compte qu'il fallait voter son salaire dans les AG. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris qu'il était salarié, parce qu'il s'en vantait pas, et voilà. Donc c'est vrai que ça pose quand même souci, parce qu'on n'est pas égal à égal. Entre un salarié permanent qui est non adhérent et puis des adhérents. Voilà. Il y avait beaucoup de prises de décision qui étaient faites aussi au niveau du conseil d'administration de ce syndicat. Et il y a de nombreuses reprises en fait. Il y avait une réunion, c'était tous les jeudis du mois, mais il n'y avait pas d'ordre du jour, pas de procès verbal. Donc on ne savait pas trop de quoi on allait parler. Donc la plupart du temps, je ne savais pas qu'on allait parler de tel ou tel sujet. Puis je trouve qu'il y a des avenants à la convention collective qui ont été signés sans même que je le sache. C'est même mon patron qui en réunion CSE m'a dit, enfin CE à l'époque, m'a dit ton syndicat a signé quelque chose, et j'étais même pas au courant. Donc voilà, plein de déconvenues, des élections qui sont mal, enfin on a été très mal conseillés, voilà. Et ce que je disais surtout, c'est que c'est pas des personnes qui sont du milieu. Donc quand on leur explique un problème, et ça se vérifie aussi à la CFDT, parce que maintenant je les vois en pratique dans les réunions de branche, ils savent pas ce qu'on fait en fait, et c'est très compliqué pour eux de comprendre.
Donc ils envoient des négociations de branche, des non spécialistes,
des salariés de professionnels du syndicalisme, effectivement. Après, certains ont travaillé, je pense à celui qui est à la CFDT, Bah, il a travaillé en tant que metteur en scène ou quelque chose comme ça dans le théâtre en tout cas. Mais pour toutes les questions d'animation, bah, il est pas spécialisé quoi. Après, je prétends pas connaître tous les métiers du cinéma d'animation non plus. Mais disons que j'ai quand même un pied dedans quoi, ce qui me différencie des autres. Et puis, je suis pas salarié.
Et puis de ces déconvenues est né un rapprochement.
Une perte de confiance déjà.
Ouais, il y a une très grosse perte de confiance. En fait, on a mené une liste DP et CE pendant 3 ans, du coup, sous l'étiquette CGT.
Ouais.
J'étais le seul adhérent qui était dans le syndicat. Et d'ailleurs, ce qui est un peu un problème, parce qu'on met des sections syndicales alors qu'il n'y a personne qui représente véritablement le syndicat au sein de la section. Et on ne pouvait pas vraiment parler de section, parce que c'était plus des élus, en fait, des représentants du personnel. Mais effectivement, après pas mal de déconvenues pendant toutes ces années, la décision a été prise de se séparer de la CGT, par, tout simplement démocratiquement, entre les gens qui voulaient présenter une nouvelle liste. Donc la première liste qu'on a faite, c'était en 2016, fin 2016, on a fait 3 ans, et fin 2019, se reposer la question de reconduire notre mandat, et en 2019, du coup. Et là, on a prospecté un peu ailleurs, je suis allé voir Sud Culture, notamment, et d'autres syndicats, et puis là, c'est plus Vincent qui avait, je sais pas comment on peut dire, mais... sympathisant, enfin voilà, que les idées de la CNT, c'était vraiment ce que tu...
C'est lui le mauvais élément alors.
Ah ben, j'en sais rien.
Disons qu'il était plus CGT à la base, mais voilà. Mais
il écoute du punk alors que moi c'est pas trop mon cas. Voilà, et donc c'est pas parce que Vincent avait des affinités avec des gens de la CNT, c'était vraiment, on croisait la CNT en manifestation aussi, enfin voilà, on s'est un peu fait notre avis. Et puis finalement, le premier rendez-vous qu'on a fait avec la CNT et donc le secrétaire du SIPMCS, et en gros, il a coché toutes les cases, quoi. Chaque fois qu'on lui posait une question, c'était autogestion, démocratie directe.
Le constat qu'on peut en tirer, c'est que en gros, ce qui nous a déçus chez la CGT, on a trouvé les réponses de l'autre côté, exactement, puis pas la CNT, quoi. On vous a fait qu'un tout petit résumé de ce qui nous a déçus, mais grosso modo, on a retrouvé l'autre. Les bonnes réponses de l'autre côté, quoi.
Et c'était vraiment ce qui nous a motivés à aller à la CNT. Alors après, au moment des élections, c'était un peu compliqué parce que il nous fallait être sur une liste syndicale parce que derrière, en face de nous, il y avait une liste CFDT qui se présentait en 2019. Et donc, on pouvait pas ne pas se présenter sous une étiquette. Et c'était un peu dur de faire adhérer aux autres aussi de se présenter sur une liste anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire dans une boîte où on est beaucoup d'intermittents, on peut se faire jeter. Donc c'était pas le cas le plus idéal, surtout que la CNT, à l'inverse de d'autres syndicats, nous demandait d'être adhérents au syndicat. Donc il y a quand même eu une confiance parce qu'on n'était pas adhérents au syndicat au moment où on a créé la liste. Mais le deal, c'était qu'on adhère plus tard en fait. Et ça là-dessus, il y a eu vraiment un vote de confiance au sein du SCPMCS de nous laisser en fait mener une liste et représenter le syndicat ensuite. Alors qu'on les connaissait à peine, mais voilà, il y a eu un bon feeling, ça s'est très bien passé, et enfin, personnellement, je regrette absolument rien et très content. Voilà.
Et puis, comment avez-vous présenté aux autres membres de la liste qui n'étaient pas forcément des syndicalistes, des syndiqués ou des militants quelconques, la CNT et puis son projet
c'est plus par dégoût de la... Enfin, pas dégoût, c'est un peu fort, mais...
Dégoût des autres ?
Ouais, non, de la CGT, enfin, ce qui s'était produit, parce que on s'est vraiment senti manipulé. Il y a une question à la CGT qui est très forte, c'est la question de la représentativité, parce que de la représentativité découlent les subventions, des subventions découlent les salaires des salariés permanents. Alors je dis pas que c'est leur leitmotiv premier, évidemment, c'est des syndicalistes, ils veulent aider les salariés, mais c'est vrai qu'au moment des élections, ils sont quand même très proactifs pour aller chercher des gens, créer des sections syndicales qui les représentent pas forcément, parce qu'il y a besoin d'avoir une représentativité, et ils tiennent un tableau de chiffres, de combien de voix ils ont eu, pour savoir s'ils sont majoritaires ou pas, voilà, donc c'est...
Non, ça c'est pas que la CGT, c'est tous les syndicats, tous les secteurs.
Ouais, mais eux, c'est des bras cassés, c'est-à-dire que nous, la société dont on parle, c'est grosso modo, on fait 50% de la représentativité sur la France entière, ils nous ont contactés la semaine précédente, quoi. Au fait, vous venez chez nous ? Bah non, c'est ballot.
Ouais, bah en fait, pendant très longtemps, on a souhaité quand même faire une intersyndicale, parce qu'il y avait d'autres salariés qui voulaient se mettre sur notre liste, mais qui voulaient pas se retrouver tout seuls aussi sur une liste syndicale qui soit autre que la CNT. Et du coup, il y avait aussi ça dans le deal, c'était de prendre des gens qui n'étaient pas forcément adhérents de la CNT, mais le syndicat en question ne voulait pas faire une intersyndicale avec la CNT. Donc ils se sont greffés avec nous sans être adhérents non plus. Mais ce qui a permis d'avoir un groupe assez solide et complet, parce qu'on a réussi à être élu et on a failli de peu avoir la majorité au sein de la boîte, à 30 voix près. En gros, à 15 voix près, on avait la majorité dans l'entreprise. En face, on a la CFDT. Et voilà, donc ça s'est quand même très bien passé, mais c'est vrai que finalement, d'être en groupe et de s'être fédérés entre nous, même si on n'était pas tous du même syndicat, même s'il y en a qui n'étaient pas du tout. Encore adhérent, pour ma part j'étais encore à la CGT au moment où on a créé la liste syndicale, donc c'est vraiment de la confiance que nous a je pense qu'on peut le dire, on les remercie encore d'avoir au dernier moment bien voulu nous accepter sur une liste CNT. Voilà, après si on est suivi des contestations de l'employeur qui dit mais c'est quoi les statuts, voilà. Mais bon, enfin, au final on disons que la porte d'entrée d'être entré à la CGT avec une liste CGT, bah, l'employeur il a été moins réticent au fait qu'on arrive. Puis après il nous connaissait, donc le fait de changer de syndicat, il en a même presque rigolé. Au point qu'à la première réunion de CSE qui a suivi, il nous a passé les berrues, la CNT on veut pas travailler.
Live qui a été fait dans les câbles.
en pleine première réunion. Donc après, il y en a qui l'ont pris comme ils l'ont pris, mais voilà, je pense que c'était une boutade qu'ils voulaient lancer. ou une intimidation, bref, selon l'interprétation. Voilà.
Et du coup, les élections, là, c'est peut-être plus technique, mais les rapports, parce qu'on sait que pour se présenter aux élections, maintenant, il faut un ratio de paritaire d'hommes de femmes, c'est majoritairement des hommes, des femmes, et c'est
en fait c'est bien pas mixé. C'est pas une parité exacte, enfin une parité absolue, c'est une parité qui est en fonction de la représentativité dans l'entreprise. Donc en fait voilà, il y avait 25%, je sais plus exactement, mais 25% de femmes et 75% d'hommes. Du coup les listes devaient se constituer comme ça. Par contre, il fallait qu'il y ait une alternance entre des candidats masculins et féminins. Voilà, donc ça pouvait commencer par un candidat masculin comme un candidat féminin, peu importe en fait. L'idée c'était d'alterner jusqu'à ce qu'on épuise le ratio de représentativité. Donc au bout d'un moment, il n'y avait que des hommes sur la liste.
Mais juste pour répondre plus largement à ta question, il y a de plus en plus de femmes dans nos métiers. Ouais. C'est un truc qui était vachement masculin avant et ça commence à bien changer maintenant.
Pourquoi c'est moins bien payé?
Non, là-dessus, non, les intermittents, je pense que ça va à peu près. À peu près. Il y a des couacs, mais ça, c'est pas mal.
Ouais, il y a toujours des inégalités. Enfin, voilà, surtout chez les matermittentes, comme on les appelle. Hein, enfin, les femmes qui partent, qui n'ont plus de contrat, et puis quand on ne sait pas quand elles reviennent. Enfin, alors que si elles étaient CDIsées, en étant permanent, il y aura des congés maternité. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Là, elles sont juste. Il y a juste une rupture de contrat. Enfin, le contrat s'arrête. Par maternité, donc payé par Pôle emploi ou carrément la CAF, et puis advienne que pourra quand t'es repris avec l'enfant. Enfin voilà, donc il y a ces inégalités là qu'on voit peut-être pas, mais qui existent, qui est pas forcément lié à la rémunération.
Ouais, ça répond à ma question.
Mais justement, effectivement, il y a des avantages à être salarié et salarié en CDI. C'est par exemple l'adhésion de l'employeur à une mutuelle. Et vous avez une mutuelle du coup, mais alors, si parce qu'on va parler aussi des contrats que vous avez, les CDDU
d'usage. Ouais, ça porte bien son nom.
C'est pour les auditeurs, ça pour mettre la.
On peut les jeter.
Attirer leur attention. Mais du coup, enfin, vous parliez d'intermittent du spectacle, donc vous n'êtes pas censé être resté tout le temps avoir un contrat sur plusieurs années.
C'est ça. Bah,
donc,
en fait,
du coup, comment ça se passe comme ça, si avoir des bénéficiaires de ces avantages de mutuelles médicales.
Bah en fait, il y a un accord interprofessionnel en fait qui a été conclu avec les syndicats du secteur, enfin des secteurs. Ça, c'est le grand champ du cinéma, audiovisuel, etc.
D'accord.
En fait, il y a un fonds, en fait, une caisse. Comme on est multi-employeur, en fait, il y a des cotisations patronales qui abondent ce fonds pour qu'on puisse bénéficier de mutuelles en fait auprès de l'AFDAS. C'est le pas l'AFDAS, c'est l'audience qui permet de récupérer des mutuelles pas trop chères, mais c'est pas des mutuelles extraordinaires quand même. Mais disons qu'on, du coup, de ce fait là, l'employeur n'a plus l'obligation de présenter une mutuelle d'entreprise, vu qu'on a ce système là qui est multi-employeur. Et du coup, il se délègue de ça. Voilà.
Donc la mutuelle est individuelle. Il y a une individualisation du contrat mutuel.
Oui, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, moi, je ne prends pas spécialement la mutuelle d'audience.
Mmh. Bah, la même. Voilà. Parce qu'elle est pourrie.
Voilà.
Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Mmh.
Mais bon, elle n'est pas chère, par contre. Oui. Donc pour des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose, ça reste intéressant.
Pas cher pour ne pas être remboursé, c'est pas mal, quand même.
C'est ça.
C'est une conception de la mutuelle.
Oui, j'imagine que c'est mieux que la CMU.
Oui, mais bien sûr, bien sûr.
Non, c'est intermittent du spectacle. Ils sont intermittents, pas intermitteux.
Il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'on nous confond souvent. Enfin, être intermittent, c'est être dans l'intermittence. Donc, quand on dit qu'on est intermittent, c'est un lapsus. On dit les intermittents du spectacle. Mmh. En fait, l'intermittent, c'est quand on est au chômage. En fait, c'est quand on cherche du travail. Quand on est dans une structure et en fait, c'est bête, mais c'est vraiment que du langage. C'est que quand on est dans une entreprise, on a un contrat, on est salarié, et on a le statut de salarié. Et il y a beaucoup de gens qui pensent dans notre milieu qu'en fait, quand ils sont dans l'entreprise, même s'ils ont un contrat, ils pensent qu'ils sont intermittents du spectacle. Donc,
les intermittents, c'est lié à un cachet, hein, c'est pas lié à un salaire.
Alors, il y a les deux. C'est pour les artistes, c'est des cachets qui sont un système de cachets. Et les techniciens, c'est un bulletin de paye classique.
Et nous, on est plutôt côté technicien.
Moi, je suis déçu, vous n'êtes pas des artistes.
on met notre petite pointe d'artiste.
C'est pas des danseuses. Bah c'est tout, on va laisser un blanc comme
bah
ça.
Du coup, vous êtes entre. C'est un blanc, un blanc. Une croche. Que... du coup, vous avez adhéré à la CNT un par un, vous avez adhéré à la CNT. Est-ce que derrière la CNT, par conviction idéologique, hein, disons les mots.
Oui, complètement.
Et les autres du coup,
alors les autres en plus c'était je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu du mal à adhérer au projet au début parce que forcément déjà adhérer au CSE quoi, l'idée de savoir comment ça fonctionne, nous on avait déjà un mandat de CE et DP donc le mandat de CE si on peut faire un petit peu un bilan de ce qu'on a fait parce qu'on a quand même fait pas mal de choses dans l'entreprise, on n'avait pas de jours fériés pour les personnes en CDD d'usage, enfin les fameux intermittents de spectacle. On n'avait pas les mêmes jours fériés que les permanents. Donc on s'est battu pour qu'on ait les mêmes jours. Et là, le dernier mois de mai, il a porté ses fruits. On a pu rester chez nous.
Ça veut dire quoi? Vous n'aviez pas les mêmes? C'est-à-dire que
en gros, je voyais mes collègues.
Vous n'aviez pas le droit.
C'était terrible pour nous commencer.
Je voyais mes collègues partir en congé payé pour les jours fériés et moi je restais à travailler quoi. Et c'est vrai que c'était assez dur à vivre.
C'était des jours. Vous aviez les mêmes jours fériés. Pardon. Vous aviez les mêmes jours fériés, mais ils n'étaient pas forcément rémunérés.
Ils n'étaient pas. Ouais, comme payés, chômés.
Parce que c'est le code du travail actuellement. En fait, c'est les conventions collectives qui font que c'est chômé et payé.
Il n'y a que le 1er mai qui est dans le code du travail. Ouais, tout à fait. Okay. Dans la convention collective, il y a 5 jours. Et nous, on nous appliquait 5 jours.
Si, on a Noël, mais attends, parce qu'il fermait la boîte à ce moment-là.
Oui, voilà aussi.
Donc, même sur les 5 jours fériés qui ne sont déjà pas énormes,
ferme la boîte, t'as plus de contrat, donc comme t'es hors contrat, ils n'ont pas à te payer quand t'es hors contrat. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que juste un jour avant le jour férié, le contrat s'arrête et puis reprend. Alors ça se vérifiait moins, beaucoup. Enfin là, il y a eu quand même un recadrage. D'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on a fait au CE, DP, puis maintenant au CSE aussi. C'est l'idée de rentrer dans le cadre légal. Ça nous a vraiment aider quoi, pour se faire respecter au niveau de l'employeur, c'était vraiment de rentrer dans un cadre légal, de nous être irréprochables entre guillemets sur ce qu'on faisait. En tout cas, moi j'avais vraiment la volonté d'être super carré dans tout ce que je faisais pour qu'on puisse rien nous reprocher déjà de base, en tant qu'intermittent du spectacle, au moindre problème. Vu que notre contrat peut s'arrêter, ben, pareil, au niveau de mon travail, j'essaie d'être irréprochable pour que ce que je fais au niveau du CSE, on ne puisse pas me reprocher de ne pas faire mon travail mais, et de faire que du CSE. Enfin, ça est d'ailleurs assez dur au niveau des deux en tant qu'élu. Mais c'est vrai que d'être carré, on a imposé à ce qu'il y ait des procès-verbaux détaillés, que ce soit signé par l'employeur, qui s'engage réellement sur des choses. Je ne sais pas si on a d'autres exemples, mais en gros, c'est...
En gros, ce qui nous posait vraiment souci, c'est que avant qu'on arrive, c'était pas mal. Je vais pas dire entre potes, mais ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient et c'était pas très très carré. Et ce qui arrangeait l'employeur dans la finalité.
Ouais, c'est une réunion informelle, quoi, plus qu'un CSE.
Bah, disons que le patron censurait pas mal de choses sur les PV, par exemple, et ça les dérangeait pas du tout, quoi. Donc nous, c'est vrai que quand on est arrivé, vraiment Cédric sur ce coup-là, on peut le remercier. Il a vraiment, il nous a fait chier, mais ça a bien marché. On a réussi à mettre un cadre en fait qui par la suite est devenu la normalité et qu'on respecte encore aujourd'hui.
Ah oui, il vient de la CGT, il est carré. Là, t'es plutôt punk, forcément c'est des anards, ça part dans tous les sens.
Non, mais réellement, c'était plus malin de le faire comme ça parce que du coup, ça, en étant carré, en étant irréprochable, bah, ça nous permet aussi d'imposer aux autres, à savoir la CFDT sur ce coup-là, de suivre aussi l'argumentation.
Quoi. Ouais, parce que la section syndicale CFDT qu'on a du coup avec nous, en face de nous, enfin, pas trop comment le dire, y a beaucoup de connivence avec les directions. Quoi. C'est des gens qui.
Je suis étonné.
Voilà. Qui travaillent directement ou même à 2-3 bandes, ils travaillent avec la direction. Donc après, je dis pas qu'ils ont pas un point de vue à donner parce qu'ils ont été élus comme nous par des gens qui les représentent. Donc c'est ils ont leur pensée légitime, on va dire.
C'est les élections, ce qu'on en pense.
Bon, en tout cas, je respecte les salariés qui votent pour eux, même si je préférais qu'ils votent pour nous, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y avait un laisser-aller, quoi. C'était un peu ce que j'avais constaté avant d'être élu DP et CE au premier mandat. C'est qu'il n'y a rien qui se passait, on posait des questions sur les intermittents, il n'y avait que des gens qui étaient en CDI, alors que dans la boîte, on est 900 en intermittent, parfois. Ça oscille, hein, parce qu'en fonction des films, on est entre 600 et 900, et il y a 37 CDI dans la boîte, donc c'était eux qui n'avaient aucune connaissance de ce qu'on faisait. Je n'en veux pas spécialement, mais du coup, on était un peu désarmés. Donc
Disons que dans une boîte de 900, il n'y avait pas de délégué du personnel. Il y avait des gens au CE qui étaient là pour faire des soirées bowling, des choses comme ça, mais il n'y avait personne pour nous défendre. Et moi, personnellement, avant de rentrer au CE, j'ai eu des soucis, j'ai demandé de l'aide. On m'a dit, je peux rien faire pour toi. Quoi. Donc du coup, on a monté le truc.
Voilà, c'était un peu en dépit de réaction, puis au final, tant mieux, parce qu'on a... On a pris les choses en main. Et voilà.
On n'est jamais mieux défendu que par soi-même.
Exactement.
Avant de passer une chanson, ça va encore être un blind test. Là, ça vous concerne
prêt,
tous les deux,
prêt.
Vincent et Cédric, particulièrement. Puisque tu parlais de la CFDT, moi je vous dis comme ça, mais là, je suis en arrêt, hein, ça fait 2 mois que je suis en arrêt de travail. La dernière réunion de CSE, la déléguée CFDT a proposé qu'on supprime mon poste.
Ah ouais.
S'il n'est pas là, on le supprime. Musique.
分かってほしい絆で私を
Oui, Eric, vas-y, parle. On est à l'antenne. Vas-y, marmonne. Alors, Eric, tu veux nous dire qui était-ce?
C'était.
Je connais pas le Lupin. Groupe. C'est la bande, c'est tiré de la bande. C'est la bande originale du Château de Cagliostro, le premier film de Miyazaki en 79. Ils étaient tout petits, nos invités. Ils étaient tout petits.
J'étais pas né. Pas né, toi. 84.
Cédric était pas né. Ouais.
Alors qu'à l'époque, j'écoutais déjà les Cramps, parce que t'aurais pu passer en premier morceau, parce que c'est ressemblable, mais c'était
T'avais déjà fait ton service, toi.
Ah, j'étais pas loin, ouais.
Depuis 20 ans.
J'étais pas loin. Ouais.
Bon, c'était du film, c'est du film d'animation.
Bah oui, là, ça, oui.
Mais bon, j'aime bien.
Miyazaki, c'est un peu une référence, hein, mais pas qu'un peu.
Voilà, ouais, ça nous la coupe.
Hein. Ah, c'était, c'était tout ça. Ça repose, en tout cas.
C'est vrai. C'est souvent le genre de musique qu'on écoute pour travailler. D'ailleurs.
Mais pour du Miyazaki, tu aurais pu passer dans Porco Rosso, tu as Le Temps des Cerises.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais.
Je ne lui parle pas de Porco Rosso.
Si, justement, il peut. Tu m'as mis une tasse, Porco Rosso, je bois dans Marco.
Bravo. Bravo.
Ouais. Ouais. C'est le meilleur, pour tout cas, Porco Rosso.
Voilà, ouais, on est d'accord.
Donc, je rappelle que Cédric et Vincent de la section syndicale du
SIPMCS.
Ça, c'est le syndicat.
Ah oui, mais d'Illumination Studio, Paris.
Et vous avez fait, alors, je vais faire un petit peu de pub, parce que vous avez fait aussi une. Enfin, toi, Cédric, tu as participé à une interview dans le dernier éco syndical, donc le 6. Que de vous, chers auditeurs, auditrices, pouvez vous procurer auprès de l'Union régionale parisienne de la CNT. Voilà. Donc, il est fourni. Hein. Sans dire que vous étiez bavard.
C'est
mais
ça.
Même dans le texte, hein, c'est écrit tout petit, il faut des lunettes. Mais bon, même avec des lunettes, je vois pas.
On m'avait dit 4 pages et ça tient sur 2.
Et ça tient sur 2, donc ouais, forcément.
Et encore, on a enlevé plein de trucs, je pense. Enfin, c'est pas je pense.
Bah, les trucs c'est rentrés, sûr. Tu peux les dire là maintenant.
Voilà, exactement.
On va censurer.
Oh non, ouais. Bah, il faut
faire une deuxième si vous voulez.
Il faut.
Surtout si vous voulez taper sur les autres. Les autres syndicats. Alors.
On était sur la CFDT. On va parler des. Continuer.
Ouais, on avait parlé aussi de la particularité de vos contrats d'intermittent. Mais je vois aussi, justement, dans l'interview, c'est que votre employeur, il prend aussi des assistants, des assistantes, donc, ce qui leur permet d'avoir de rémunérer moins copieusement des personnes qui sont pas assistants ou assistantes, mais qui font le travail de.
Alors ouais, ça c'était une problématique qu'on avait eue. Justement, c'est un peu.
Exactement.
C'est
l'exemple,
c'est Vincent, c'est le problème dont il parlait tout à l'heure. Ouais. Mais je vais te laisser. Expliquer peut-être.
En gros, grosso modo, le problème qui s'est posé, c'est que j'étais rémunéré en dessous des conventions collectives de mon contrat, en fait. J'étais graphiste et j'étais rémunéré comme un assistant. Du coup, c'est là où on a demandé à la CGT de l'aide et c'est là où ils nous ont dit, écoute, va voir le patron tout seul, un par un, 100 personnes sur 300.
Ouais. C'est une... Bon, c'est une manière de t'inciter de faire de passer à l'action directe, je sais pas. Ouais. Mais pour la solidarité, on repassera aussi. Hein.
Ouais, du coup, ça a permis au patron de faire se coucher pas mal de monde dans le tas, en leur promettant monts et merveilles, oui, pour ton prochain contrat, on se débrouillera autrement, etc. Voilà.
Après, ils ont essayé de modifier la convention collective, qui ne leur permettait pas, pragmatiquement d'embaucher des assistants infographistes. Donc au moment des négociations de convention collective, il y a eu un avenant qui est sorti, qui modifiait en fait la grille de convention collective et qui introduisait un échelon junior et un échelon confirmé sur un même poste. Ce qui fait qu'il y avait un infographiste qui était confirmé, puis un autre qui était junior, et ça permettait de prendre quelqu'un un junior, forcément avec un salaire qui était moindre que l'infographiste de base, alors que tout le monde se tuait à leur dire que c'était le même poste et qu'il n'y avait pas d'histoire d'échelon dans une convention collective. On prend quelqu'un un poste, s'il assiste, il doit assister quelqu'un, parce que là c'était pas le cas, les assistants assistaient personne, ils faisaient le même travail qu'un infographiste, et c'était ça qui posait problème. Et donc il y a eu une grosse mobilisation, pas mal d'étudiants de l'école des Gobelins notamment, qui nous ont bien aidés sur ce coup-là. Ils sont même allés manifester devant la CGT.
Ce qui les a mis en panique.
Ce qui a mis en panique la CGT. Et comme à la CGT, ils étaient un peu en retour d'ivoire, enfin, moi, j'en faisais partie à ce moment-là de la CGT. Et avec Vincent, on était les deux seuls à être allés. Ils avaient fait une manifestation en République, juste en bas d'une réunion qu'on avait à la Bourse du Travail pour parler de ce sujet-là en particulier. Ils étaient venus manifester. Et avec Vincent, on était allés pour leur répondre en direct sur la place de la République, pendant que les autres étaient dans une salle de réunion à discuter.
Parce qu'ils flippaient d'aller les rencontrer, ce qui est assez fou, quand même.
Donc c'était, dans ce contexte-là, du coup, la CGT a renoncé à signer l'accord d'avenant. Et la CFDT s'est rétractée, évidemment, tout de suite après, n'a jamais signé, mais bon, c'est toujours pareil. On attend qu'il y en ait un qui signe pour mettre sa signature aussi.
Oui, c'est une manière, je veux dire, c'est pas moi, je fais comme les autres.
C'est ça.
C'est pas moi le premier.
Et bon, ils avaient l'intention, en tout cas, de signer, comme la CGT avait l'intention de signer. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je m'étais mobilisé au sein du syndicat pour dire non, il faut pas signer ce truc-là, parce que c'est vraiment. C'est prendre quelqu'un à faire la même chose et le payer moins, quoi. Et ça, tous les organisations patronales nous ont dit mais non, vous racontez n'importe quoi. Et encore aujourd'hui, on nous reparle de cette histoire en disant vous aviez pas compris le projet. Enfin voilà. c'était ça.
Alors, en fait, vous êtes infographiste parce qu'on parlait d'animation. Mais nous, on est une époque où l'animation, ça se faisait au pinceau sur le celluloïde.
Bah oui.
Et ça se fait toujours.
Pour les courts métrages, ça se fait toujours. Les gens qui travaillent même avec des bancs de sable, ils prennent une photo, ils modifient, ils grattent le sable, ça modifie le mouvement, et puis ça fait, on shoot, ça fait une frame d'animation, et voilà, ainsi de suite. Donc il y en a toujours qui travaillent comme ça avec les cellulos pour les décors et tout. Ouais. Mais bon, c'est dans l'industrie, du cinéma, enfin parce que maintenant on peut parler d'industrie, même si à l'époque de Disney c'était déjà une industrie. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que ça se fait de plus en plus de façon sur l'ordinateur numérisé, quoi, sur ordinateur. Et il y a toujours le cinéma traditionnel, qu'on appelle traditionnel cinéma 2D, donc à plat, cinéma dessiné, qui se fait soit maintenant avec des tablettes, il y a d'autres façons de dessiner, ou soit qui continue à se faire à dessiner sur papier, mais c'est encore shooté ou scanné, et voilà, enfin, ils continuent à travailler comme ça. Et puis il y a notre domaine, on va dire, d'animation, qui est l'animation 3D, enfin ce qu'on appelle communément 3D, mais souvent c'est confondu la 3D avec la stéréoscopie, enfin l'idée de voir l'image en relief. Et en fait là, nous, quand on parle de cinéma 3D, c'est vraiment image de synthèse, fait en image de synthèse, et c'est le même principe en fait, c'est qu'on a une image, souvent c'est le 24 frames seconde. Donc en fait, c'est juste que l'ordinateur remplace le métier d'intervalliste, en fait, ceux qui faisaient les intervalles entre les frames clés. Là aujourd'hui, c'est l'ordinateur qui assiste et qui interpole les frames entre elles. Enfin, voilà.
Les images, les frames.
Ouais, pardon, on parle de frames. Mais oui, les images entre elles, voilà. Donc il y a toujours le mouvement, le fait qu'il y a un animateur 3D qui a une marionnette 3D, en fait, on va dire, pour simplifier les choses. Cette marionnette 3D, il l'anime, il pose ce qu'on appelle des clés, quoi. Enfin, il va poser, il va le mettre en situation de pose, et puis il va passer d'une pose à l'autre. L'ordinateur va interpoler les poses, et puis ce qui va générer le mouvement. Et eux, après, ils animent aussi l'interpolation entre les poses, parce qu'on peut donner aussi l'ordinateur, on peut lui demander d'interpréter différemment, de façon très linéaire, ou de façon, on va dire, plus molle, plus soft.
Alors du coup, travaille sur informatique, je me dis il doit y avoir du télétravail aussi, ça doit se développer un petit peu, surtout avec le Covid, ça a dû le développer
même plus. beaucoup.
C'est ça. Et c'est des... donc vous pouvez travailler en fait individuellement chez vous plutôt que de retrouver sur un pôle.
Bah alors ça c'est toujours à la permission de la direction quoi. Enfin d'ailleurs c'est pas mal remis en question en ce moment dans l'entreprise où je travaille. Mais oui, ça s'est démocratisé surtout... En fait, avant, ça se faisait que très peu. C'était des gens, voilà... C'est très disparate, en fait. Il y avait une personne par-ci, par-là, qui faisait du télétravail parce qu'elle avait besoin d'habiter à Nantes ou je sais pas où. Voilà, donc ça se faisait pas trop.
Et c'était l'exception.
Pendant la pandémie, dès le lendemain, il a fallu continuer à faire les films. Et en fait, on a continué à les faire, des fois, sur nos propres machines. Enfin, pendant 3 ans, j'ai bossé sur mon propre ordinateur portable, tout petit, voilà.
Alors déjà, c'est bien, bravo. C'est bien pour ton employeur de travailler sur ton matériel. Tu n'uses pas le matériel de la boîte.
Bon, après, très vite, très vite, ils ont remplacé le matériel, évidemment, parce que ça, mais c'était dans la situation d'urgence.
Sans contrepartie financière, ce que tu racontes, justement.
J'espère bien.
C'était très compliqué, c'était pareil, une lutte pour toucher un peu de sous.
Ouais, en fait, si on peut parler de ça d'ailleurs, l'employeur voulait imposer une charte du télétravail, sauf que comme il y avait un délégué syndical, c'est-à-dire en ma personne, c'était pas possible. Enfin, il y a même 2 délégués syndicaux CFDT, je l'oublie presque. Mais il voulait faire imposer une charte. On lui a dit, non, c'est pas possible, il y a déjà une convention collective qui déjà en fait définit ce que c'est le télétravail. Mais la convention collective étant... mal écrite, elle ne bénéficiait pas, enfin, elle n'avait pas été modifiée en fonction des ordonnances Macron qui avait dit, entre autres, qu'avait modifié le code du travail en disant les rémunérations sont plus prises à 100% par l'employeur, et ça a été rayé avec les ordonnances Macron, ce qui fait que les conventions collectives qui avaient le 100% écrit, qui reprenaient in extenso ce qu'il y avait dans le code du travail, pour les employeurs, ça avait pu... c'est plus en accord avec le code du travail, donc en fait on l'applique pas quoi, voilà. Et pendant très longtemps, on a demandé à ce que soit appliquée la convention collective, lui dire qu'il pouvait pas faire une charte de télétravail tout seul parce qu'il y avait des syndicats d'entreprise, donc s'il voulait faire quelque chose c'était forcément avec un accord d'entreprise. Et on a mis 6 mois, et pendant ce temps-là CFDT disait pendant que vous négociez ça, les gens n'ont pas d'indemnité de télétravail, voilà. On dit si, ils auraient dû avoir une indemnité de télétravail puisque la convention collective dit remboursement à 100%. Donc, et on a fait, c'était ping-pong pendant, 4 mois jusqu'à temps que l'employeur se décide enfin à faire un accord d'entreprise qu'il a repris en grande partie de la charte.
Alors, les accords justement dans l'entreprise, vous les faites, donc ce sont des délégués syndicaux, c'est pas le CSE qui les...
Non,
les ordonnances Macron justement ont délégué au CSE. Le pouvoir de faire des accords, ne serait-ce que les NAO, parce que vous faites des NAO aussi.
C'est ça, ouais, aussi.
Normalement, c'est sur 4 ans.
C'est tous les ans, les NAO d'ailleurs. C'est tous les ans, sauf s'il y a un accord, en fait. S'il y a un accord, l'accord, il n'est pas rediscuté. À partir du moment où l'accord, il est fait, on ne peut pas le rediscuter pendant 4 ans. Mais s'il y a eu des négociations et qu'il n'y a pas eu d'accord, on peut redemander l'année suivante à rediscuter du sujet. Ça oblige en fait à pas refaire tous les ans des NAO pour l'employeur. Donc au bout d'un moment, il est obligé. Enfin, c'est un peu le truc incitatif de dire, plutôt que de refaire tous les ans des NAO, accepte quelque chose pour qu'en fait on en refasse pas tout, qu'on en fasse tous les 4 ans et pas tous les ans quoi. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Mais voilà.
L'employeur de ma boîte, ils sont contents de faire des NAO tous les ans. Ça sert à rien, mais.
Là, on a fait dernièrement des NAO par rapport à l'inflation. Et on était venu dans l'idée d'avoir 10% d'augmentation de rémunération. Parce qu'on se disait que l'inflation, c'était en août dernier, l'inflation allait perdurer et que même si elle était de 6, en fait, si on prend sur 3 ans, en fait, elle évolue bien plus que ça. Parce qu'à chaque fois, on nous parle de l'inflation. Oui, c'est une inflation, c'est un taux glissant sur 12 mois et pas sur 24 mois. Donc en fait, la vraie augmentation, elle est bien pire que les 6% qu'on nous annonce encore aujourd'hui. Donc donc là-dessus, on était parti sur 10%. Et la CFDT est arrivée en disant, nous, l'inflation, elle est 10%, alors on demande 5%. Et puis, on veut des augmentations de tickets resto. Et ce qu'on avait bien dit à la CFDT, c'était de surtout pas faire ça, parce que l'employeur allait s'engouffrer sur la proposition des tickets restaurants et pas se concentrer sur l'augmentation de rémunération. Et c'est ce qui s'est produit... On nous a baladé pendant 3 mois pour nous dire à la fin que bah, on augmentait de 2 euros les tickets resto alors qu'ils n'avaient pas augmenté depuis des années. Mmh. Et le remboursement de transport qui a augmenté, qui est passé de 50% à 75%, et 20 centimes de plus par jour pour le télétravail. Voilà. Bon, voilà ce que ça a donné comme résultat de NAO. Mmh. Alors évidemment, c'est pas rien, parce qu'il y en a qui n'ont rien après les NAO, mais c'était pas du tout aux espérances de ce que. Mmh. De ce que nous on aurait souhaité quoi. Donc ouais, c'est on a l'impression que des fois la CFDT fait vraiment du sabotage par moment de.
Non, c'est de la peur. En même temps, il y a une certaine conformisation, je ne sais pas si c'est pas un néologisme, une conformisation aux souhaits à la fois de l'État, du gouvernement et puis du patron. C'est-à-dire que pour rester représentatif, pour devenir, ce que je vous disais au départ, hein, il y a de l'argent à gagner, il y a des places à gagner, il y a des. Voilà, pour conserver son leadership en français.
Des négociations à gagner. La CFDT a gagné les négociations, ils ont eu ce qu'ils voulaient.
Ils ont besoin d'une position. Ah oui, bah, ils ont fait une bonne communication.
Hein. Ils ont besoin d'une position qui ne soit pas trop syndicaliste et en même temps qui apporte un petit peu de bien-être, en tout cas défendu comme gagnant, étant du bien-être, ou de l'amélioration substantielle aux salariés. Et sur le fondamental, on est prêt à céder, mais encore une fois, c'est la CFDT, à mon sens, est davantage que la CGT qui rame un peu, qui s'essouffle. La CFDT représente assez bien le salariat. Alors, tu disais, tu ne t'en voulais pas aux salariés. Moi, je pense que la plupart des salariés, c'est des merdes. En France. Ailleurs, c'est pareil, parce que c'est pareil aussi. De mon expérience à l'étranger, c'était la même chose, parce que j'ai bossé un peu à l'étranger. Et ça représente assez les salariés dans leur ensemble, finalement. Et où on veut pas d'histoire, on se contente finalement d'une situation parfois inconfortable, mais allez, c'est tellement pire ailleurs. Et puis il faut comprendre que le patron aussi, il met beaucoup du sien et que c'est grâce à lui si on a un travail.
Et ça, ce que tu es en train de raconter là, c'est exacerbé par le fait que chez les intermittents, dans notre milieu, il y a énormément de turnover, c'est-à-dire qu'il y a énormément de renouvellement, et avec une manne d'employés jeunes qui se pointent et qui ont aucune connaissance de leurs droits. Et ça complexifie encore les choses.
En fait, nous, on voit vraiment l'idée d'être un représentant. C'est évidemment d'essayer au maximum de représenter le collectif de manière démocratie directe. Enfin, chaque fois qu'on prend des décisions, on fait une réunion de section syndicale élargie. On invite les salariés qui le veulent à venir à la réunion et de donner leur propre point de vue. Et à la fin, on procède à un vote. Par exemple, sur les NAO, en fait, c'est exactement ce qui s'est produit. Moi, je ne savais pas trop si je devais accepter ou pas les propositions de l'employeur. Et au final, c'est les salariés eux-mêmes qui ont choisi, enfin, en tout cas, ceux qui sont venus à cette réunion-là et qui m'ont dit bah, « Moi, si j'étais toi, je ferais ça ». Et on a tous voté, ils nous ont donné des alternatives, voilà, propose une cette alternative à l'employeur, qu'il a refusé. Bon, bah, c'était assez clair que cette NAO, fallait marquer un peu qu'il y avait un mécontentement des salariés, et c'est pour ça que je ne l'ai pas signé. À l'inverse de la CFDT qui, du coup, l'a signé en disant, bon, c'est pas ce qu'on voulait, mais on accepte quand même, quoi, parce que c'est mieux que rien. Voilà, bon. Après, chacun, voilà, après, ils se vantent forcément. Regardez, grâce à nous, vous avez réussi à avoir plus, machin. Et à la fin, et regardez, la CNT, ils le disent, n'a pas voté, quoi. Enfin, ils s'en servent comme élément. Enfin, c'est juste.
C'est prévisible.
Voilà, c'est.
C'est prévisible.
C'est, voilà, mais l'idée qu'on a, c'est quand même d'aider en premier lieu nos collègues. C'est vraiment l'idée, enfin, c'est vraiment, on en discutait tout à l'heure aussi, et c'est vraiment ce qu'on se disait, c'est vraiment d'aider les gens, en fait. Je sais pas, on a ce truc-là de quelqu'un qui peut être dans une très grande détresse. Enfin, on a pu le vivre, et des gens qui sont en très grande détresse, ou même des gens qui ont des problèmes de hiérarchie, d'autres qui ont des problèmes de santé, et c'est difficile avec leurs collègues. Enfin, le travail de DP, d'ailleurs, c'est, enfin, parce que, moi, je pense que c'est vraiment un travail parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, même en dehors du travail. Quand on sort, quelqu'un qui nous explique ses problèmes de santé ou ses problèmes d'harcèlement, forcément, ça déteint un peu à l'extérieur. Et c'est vraiment un travail de faire ça. Mais par contre, là, c'est le travail de long, quoi. On n'a pas la reconnaissance du truc. Les gens, ils voient que les soirées bowling Et c'est presque triste. C'est pour ça que je n'en veux pas aux salariés.
Oui.
Ouais, parce que pour moi, en fait, ce qu'eux, ils perçoivent du CE, c'est un peu ce qu'on leur a vendu, en fait. On leur a vendu le truc du... les subventions pour faire des soirées, pour faire des trucs, et pas le CE comme un collectif qui peut aider les salariés.
Ça
les arrange bien.
C'est de la méconnaissance. On veut rester... Enfin, c'est comme les trois petits singes, quoi. Tu te bouches les yeux, ouais, les oreilles, et puis c'est le salarié en France. J'étais un peu radical tout à l'heure quand je disais que c'est la plupart des salariés en France, c'est des merdes, mais à part ceux qui ont une conscience, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut être curieux. Vous l'avez été, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher ailleurs parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous avez fait des expériences. C'est ça aussi, ce cheminement qui est pas simple. Puis vous n'êtes pas arrêté en route. Enfin, je veux dire, donc c'est possible.
Ah oui, complètement.
Tu vois ce que je veux dire ?
C'est hyper enrichissant.
Alors, ceux qui ont des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes de santé récurrents, graves, etc. Ça, c'est un peu différent. Hein. Je les mets un petit peu à part. Sauf qu'ils sont pas... On n'est pas à 70 millions de malades en France. Enfin, à un moment donné, il faut aussi se croire en... Parce que c'est un credo. Hein. Le patron est là, donne du travail. Donc forcément, je vais le remercier. Et je vais rien faire pour que finalement sa situation soit compliquée.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas de réflexion sur le travail. Oui, les gens, ils sont habitués à travailler. Là, les parents travaillaient, les grands-parents travaillaient. Il faut que tu travailles. Voilà, tu te poses pas de questions, c'est une normalité.
Ils ont été à l'école.
Oui, on a été
jeunes pour travailler. Je
pense que ça change, ça, un peu, parce que je vois les nouvelles générations, enfin, en tout cas, dans notre milieu.
Il est optimiste, lui. Même oui. Vincent, là,
moi, j'y crois pas trop, excuse-moi.
Non, mais je trouve que y a plus ce truc-là de... En fait, quand j'ai commencé, il y avait vraiment des gens qui faisaient des heures pas possibles, en fait. Ils venaient travailler le samedi, le dimanche. Pour eux, le film, c'était leur vie, quoi. Je vais avoir mon nom au générique d'un film, c'est hyper important. J'ai travaillé dans les effets spéciaux avant de travailler dans l'animation. Et c'était vraiment ça, quand les producteurs américains devaient se réunir le lundi matin, il fallait finir le truc le dimanche, on n'avait pas le choix. C'était vraiment ça. Et il y a vraiment eu... Franchement, j'étais dans une boîte avant, c'était n'importe quoi. Franchement, le droit du travail, je pense que ça aussi, ça m'a tellement dégoûté. Je me suis dit, mais plus jamais, en fait, je rebosse pour une boîte comme ça, en fait, c'est mort. Et là, aujourd'hui, quand je vois les nouveaux, c'est... Alors après, c'est complaisance totale, je suis d'accord avec l'idée de le patron m'offre du travail et un salaire, je prends le salaire et je me casse. Mais en fait, il n'y a plus l'idée de je travaille pour la gloire, le film, le truc. C'est je viens, je fais mes heures, je repars, en fait. C'est vraiment devenu un peu l'usine... à ce niveau-là, quoi. C'est je pointe, je fais mes heures, je repars. Parce que ça m'intéresse moins le fait d'avoir.
Parce qu'on enchaîne beaucoup de projets. C'est logique. Mais pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un problème de dépolitisation du travail, en fait. Les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent faire des choses. Et les nouveaux, c'est parce que je suis pas d'accord pour jusqu'à aller dire que c'est des merdes, les salariés, mais le souci que j'ai, moi, et c'est pour ça que je suis un peu plus pessimiste que toi, c'est que. On va avoir un problème, on va aider la personne sur un problème précis, il va s'y intéresser, et juste derrière, ça va se rendormir. J'ai un ami qui me dit qu'on ne peut pas forcer les gens à se politiser ou à s'intéresser, il faut allumer des feux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne l'envie à la personne, il faut qu'on ouvre une sorte de porte et qu'il y ait derrière la curiosité et qu'ils soient motivés par eux-mêmes. Mais on ne peut pas les forcer, quoi. Si le gars ne veut pas s'intéresser au truc, s'il ne veut pas se politiser, s'il ne veut pas essayer de comprendre ce qui se passe derrière, au bout d'un moment, on pourra l'aider sur un point précis, puis après, ça continuera, quoi.
Alors justement, vous avez des... Alors, comment vous procédez pour faire de la propagande, par exemple, au-delà du je vais t'aider ou au-delà du CSE, la propagande pour justement le syndicalisme révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme.
Ça, après, on a les outils qu'on a, comme dans toutes les entreprises, on a les panneaux syndicaux qu'on utilise. Mais ça fait pas tout, et surtout quand on a beaucoup de salariés
en télétravail,
ouais, voilà. Donc en fait, on a créé des listes de diffusion externes, parce que la direction et étrangement la CFDT ne veut pas qu'on puisse communiquer, même la CFDT ne veut pas utiliser un canal syndical, enfin une liste de diffusion, ouais, voilà.
Ouais, c'est
enfin, ils veulent pas avoir de mailing list. De diffusion CFDT, mais parce que voilà, ils veulent pas avoir celle, je pense, il faut que ce soit égalitaire, donc ils veulent pas avoir la même chose côté CNT. Donc en fait, on s'est débrouillé par nos propres moyens, on a créé une liste, mais une liste externe, et on essaye de faire que les gens, en fait, s'y inscrivent. Alors évidemment, on ne touche pas tout le monde. Souvent, on nous reproche de faire, mais pourquoi c'est pas une communication CSE? Parce que les gens sont habitués à ça. Bah, c'est du syndicalisme, donc c'est pas du tout la même chose. Enfin, on éduque aussi les gens. Mais à part ça, ouais, c'est vrai que ça passe beaucoup par des coups de fil, des réunions en visio avec d'autres gens. Enfin, voilà, on a vraiment changé de modèle, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment intégrer le télétravail dans le syndicalisme. En fait, on a pas le choix. C'est arrivé à nous. Et avant, on faisait des réunions en bas de la boîte. Avant, c'était ça. On est en bas d'un parking. On se réunissait en bas du parking.
Donc, le patron qui passe en scooter à ce moment-là.
Voilà, c'était ça notre. Voilà, on se mobilisait à ce moment-là parce qu'on n'avait pas de salle. Rien. Et là, aujourd'hui, on s'adapte.
En fait, le truc, c'est que c'est difficile d'avoir que les gens sachent qui on est. Mais au fur et à mesure, par le bouche à oreille, quand on a réussi à démêler un problème pour une personne, bah, cette personne, quand elle entend qu'il y a il y a un collègue qui a un souci aussi, peut-être va voir machin ou voir machin. Et du coup, ça marche comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai que je dirais que c'est un travail de fond. Alors, tout ce qu'on fait, là, les millénistes, etc., ça y participe. Mais c'est un travail de fond de façon à ce que les gens, et c'est vraiment dans la durée, aient confiance en nous, tout bêtement.
Il faut espérer que ça fonctionne, parce que lui, il fait ça depuis 30 ans. Ça...
Ah bah, merci.
Je ne vais pas vous démoraliser. Ouais.
Non, ça marche.
Par contre, je vais simplement dire à propos de ce que je dis des salariés. Je pense que c'est parce que. Alors, j'étais un peu radical, mais en vrai, je le pense hein, réellement, donc je peux le démontrer aussi. Que c'est souvent de l'aveuglement et de l'égocentrisme. Et un fort égoïsme. C'est-à-dire que c'est moi, je suis bien, toi, je m'en fiche. Je suis bien maintenant, tout de suite, et si je ne suis pas bien là, et que j'ai l'opportunité d'aller ailleurs, tout ce qui se passe ici ne m'intéresse pas, de toute manière. C'est moi.
D'autant ailleurs. Plus chez les intermittents.
Mmh. Ouais, mais c'est souvent les gens qui votent CFDT, ça.
Pas que, mais il y a ceux qui aussi.
Qui votent pas du tout, ouais. Je pense qu'il y a. Enfin, moi, j'essaie d'être optimiste dans ce que je fais.
Non, mais t'as raison.
Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, ça nous a quand même pas mal profité parce qu'on. Disons qu'on essaie de trouver des gens bien orientés dans la boîte. Le fait de faire des réunions avec eux assez régulièrement, donc de créer cette mini-liste, en gros, on leur envoie un mail. Ils peuvent adhérer au truc, essayer de les faire participer à ce qu'on fait. Par exemple, le sondage, on leur a dit bah, qu'est-ce que vous pensez du sondage, est-ce que vous avez d'autres questions, etc. Enfin, voilà, de pas juste être dans la. Enfin, on leur dit si vous voulez vous battre, c'est vous, quoi. Enfin, moi, je suis là pour porter la voix parce qu'il y a un média qui existe par le Code du Travail, mais si j'étais pas là, ce serait à vous de vous mobiliser. Donc, en fait, on peut pas. Donc, on essaie de les inciter de faire ça et pas être. Tout le temps que d'être dans le représentant, quoi. D'essayer de. Enfin, voilà. Bon, après, on essaye. Si ça marche pas, on essaye d'autres trucs, quoi. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, ça nous a pas mal profité. Les élections étaient plutôt. Enfin, avoir une liste CNT dans une boîte qui fait quasi 49%, enfin, je. Enfin, voilà. C'était assez inattendu. Le fait que derrière, bah, ça nous a permis aussi de pouvoir négocier dans la branche du film d'animation. Donc aujourd'hui, je suis parti pour réunion de négociation pour négocier la grille de convention collective et ce genre de choses. Et ça, bah, j'en suis très content. J'espère que ça a duré. Et aujourd'hui, les gens. Par exemple, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit. J'ouvrais la porte, il n'avait pas son badge. J'ouvre la porte, il me dit ah ben merci. Je dis bah, au moins j'aurais servi à quelque chose dans cette boîte. Enfin, je lui ai sorti un truc comme ça. Il m'a dit ah non, mais pas du tout. Tant tu déconnes, on a passé 3 semaines, on avait des jours fériés, on restait chez nous, on n'a pas oublié. Tout ce que tu fais, enfin tout ce que vous faites tous ensemble, c'est super. Enfin voilà, c'est. Et bon, il n'y a que quand dans ces moments comme ça, tu te dis, bon bah c'est pas inutile, quoi.
Mais ce qu'il disait, il y a juste un point que je voudrais appuyer, c'est le fait qu'il parle de négociation des conventions collectives, et c'est hyper important parce que moi je suis parti de la boîte où il est maintenant, où je suis encore élu, je suis dans une autre boîte. Bah faut tout refaire en fait. Il n'y a rien. J'ai pas les jours fériés, c'est reparti à zéro, quoi. Et j'ai beau contacter ce qu'il faut pour que ça change, c'est vraiment compliqué pour que ça bouge, quoi.
Même avec l'expérience de.
Ouais, mais du coup, c'est tout l'intérêt. C'est quand t'es au CSE, t'es officiel, entre guillemets, tu peux discuter avec le patron. Là, je suis personne, en fait. Et j'ai contacté le CSE, j'ai essayé de faire bouger les choses, mais Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe.
Bah, le truc intéressant aussi, c'est qu'on est l'intermittent n'est pas forcément attaché à une entreprise. Enfin, en tout cas, peut l'être, mais peut être aussi amené à partir ou peut partir de lui-même, en fait. Donc, l'idée que les idées anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires suivent, en fait, dans les boîtes, en fait, où les gens partent, ils ont connaissance de la CNT, de ce que nous, on a fait dans notre boîte. Et il y a beaucoup de gens que je crois... Enfin, pas beaucoup, c'est pas... Il n'y a pas 10 000 personnes qui suivent ce que je dis, mais...
Aussi, aujourd'hui,
maintenant. Peut-être aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est... En fait, quelque part, quand je vais, par exemple, dans un festival d'animation, il y a des gens qui viennent me parler et qui, maintenant, ils savent ce que c'est. Ils en rigolent, ils disent « Oui, l'anarcho-syndicaliste ». Parce que je prends le micro devant tout le monde, devant l'Assemblée, je présente la CNT, je représente la CNT, j'explique ce que c'est devant tout le monde, devant toute l'Assemblée. Et forcément, les gens, maintenant, savent qu'il y a la CNT qui est présente dans l'animation. Et j'ai des gens qui me contactent au téléphone que je connais pas. Bah oui, il y a machin qui m'a donné ton contact. Est-ce que je peux créer une section syndicale? Enfin, ça marche que comme ça, en fait. Et ça passe que par la confiance. Et c'est effectivement très difficile quand on a des problèmes perso ou collectifs d'essayer de les régler, nous, en tant que DP. Mais derrière, effectivement, les gens se souviennent de ce qu'on a fait. Et je pense qu'il y a un gros truc, pas tout le temps, mais non, mais c'est, oui. Mais il y en a qui se souviennent vraiment de ce qu'on a pu faire.
Bah, disons qu'ils se souviennent de nous quand ils ont des soucis, ce qui est déjà pas mal. Non, mais c'est déjà important, ouais, au moins.
Ouais. Mais bon, derrière, ils peuvent réorienter. Quand d'autres ont des problèmes, ils peuvent réorienter. Et au final, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous contactent. En fait, tout le monde a les mêmes problèmes. En fait, oui, ça, j'ai déjà vu. Comment est-ce qu'on règle le problème collectivement? Il y en a qui s'impliquent plus que d'autres. Enfin voilà, faut prendre sa géométrie variable, quoi. En fonction des situations, on peut pas répondre à une seule.
Mais je crois que ça a toujours été dans l'histoire du syndicalisme. Sauf qu'avant, je parle d'il y a plus d'un siècle, il n'y avait pas une multitude de syndicats. Enfin, de confédérations en tout cas. Mais ça a toujours été. Et pour, je voulais relativiser un petit peu ce que disait Eric sur les 28 ans, pas encore 30 ans. 28 ans de boîte. D'abord, moi aussi, j'ai des collègues qui m'ont dit, qui ont valorisé mon travail en disant, toi, je sais que tu crois pas en Dieu, mais tu iras au paradis. Bon, déjà, une boîte déjà mort, c'est déjà sympa.
Oui, mais bien mort.
Non, mais c'était bien, c'était bienveillant, mais bon.
Maladroit.
Là, c'était pour la. Pour faire marrer un petit peu. Et je sais plus exactement ce que je voulais dire. Faut pas désespérer quand même. De toute façon, dans les boîtes, faut pas vous imaginer qu'un jour tout le monde va venir vers la section syndicale. Voilà, il y a un moment, ça, vous allez prendre une routine quelque part. Peut-être que vous allez, vu le turnover, ça va être difficile, mais ça peut être toujours les mêmes qui se représentent, et puis voilà, ils vont se satisfaire de ça, les salariés. Mais c'est partout pareil. Et encore, vous, la différence, c'est que vous avez, vos collègues ont des métiers. Moi, je suis dans une boîte où on n'a pas de métier. C'est vraiment, t'as pas de boulot, t'as pas de qualification, t'as rien. Tu rentres dans le commerce, tu mets des boîtes en rayon, ils se satisfont de ça, quoi. C'est ça où t'as rien d'autre. Donc, tu fais les hôtesses de caisse, machin, ou hôte de caisse. Mais vous, le fait d'avoir un métier, ça permet de... ils ont déjà eu une forme d'instruction, ils peuvent être amenés à réfléchir aussi, qui n'est pas le cas dans ma boîte. Donc, tout n'est pas perdu. C'est pour dire que Eric, il était très pessimiste, mais...
Vous
n'aurez sans doute pas la même carrière que moi, ça c'est clair.
En tant que bilan, là, c'est simple, en fait, il n'y avait rien. On a amené un petit truc. Je dis pas qu'il y a des ampoules au plafond partout, mais il y a au moins une allumette, en fait. Il y a un petit truc, quoi.
Ça se construit, tout ça. C'est,
ah bon, foutre le feu, ça suffit. Mais... Faut tout brûler.
Est-ce que la technicienne nous a trouvé une petite chanson, là, pour qu'on...
Encore un blind test?
Je sais pas, non.
Oui, un truc un peu motorhead, c'est bien.
T'as trouvé ça où? Vas-y.
Allez, c'est parti. We can move around now.
sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4 dans l'émission Le Monde Merveilleux du Travail qui tire à sa fin, Fabrice.
Oui, donc on a auprès de nous Vincent, Cédric du syndicat, on va dire de la presse et médias.
SIPMCS, hein, voilà, presse, média, culture.
Culture et spectacle, faut pas oublier culture et spectacle.
C'est très important.
J'ai connu la naissance de SIPMCS.
SIPIM.
Ah. C'est un vieux. 28 ans de boîte, mais c'est quelques années aussi de CNT. Je suis plus vieux d'ailleurs.
Ouais, ça va. Moi aussi j'ai connu. Non ? Si.
Oui, si. Bref. Bref. On n'est pas là pour ce. Hein. Donc c'est à ton tour de Cédric et Vincent. Oui, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, avant de conclure, d'autres points à aborder.
Nous,
de l'avenir.
Ouais. Ce qui nous importait, c'était de parler un peu de comment est-ce qu'on peut aider d'autres à monter des structures syndicales. Et c'est vrai qu'il y avait un truc qui nous a vraiment beaucoup aidé, c'est l'appui des conseillers d'avocats. Parce quand le CE et après le CSE avaient un conseil juridique qui payait, les salariés pouvaient poser leurs questions comme ils voulaient. Et moi, quand j'étais même pas élu, j'ai pu poser mes questions aux avocats, ce qui m'a permis d'être élu moi-même. Parce qu'avant, il n'y avait que les permanents qui étaient élus. Il a fallu débattre avec l'employeur de manière interposée avec les avocats pour permettre à ce qu'il y ait des intermittents qui puissent être élus au CE. Donc ça a commencé là en fait réellement, et depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, j'ai usé et abusé de conseils d'avocats, et sans ça je pense qu'il y a pas mal de choses où l'employeur nous aurait juste pas pris au sérieux. Donc ça permet aussi de se faire un peu respecter, de mettre ce qu'on peut feuilleter le code du travail en réunion et puis dire oui mais ça, c'est ton interprétation, t'es pas juriste.
C'est voilà. Pas une chose à faire, ça. Faut consulter avant et arriver avec tes points.
Oui, bien sûr. Mais voilà, après, tu te ramènes. Si tu l'as avec toi,
Oui, mais faut pas le consulter. Ouais. Si tu consultes, c'est-à-dire que tu l'as pas fait avant.
Oui. Ben, enfin, voilà, en tout cas, on vient direct, on balance directement les communications des avocats. Souvent, ils nous disent ouais, notre conseil n'a pas les. Enfin, voilà, l'employeur, il nous oppose ça. Notre conseil n'a pas la même lecture du code du travail. Enfin, voilà, il balaye d'un revers de main. Voilà, mais quand même, ça nous a vraiment aidé pour pas mal de points. Donc, si j'avais vraiment un conseil à donner, ce serait ça. Après, je sais pas si on a.
Oui, du coup, quand vous avez décidé.
C'est une histoire d'amitié aussi.
Quand vous avez décidé de monter une section syndicale, vous n'avez pas été à. En fait, vous avez suivi le processus représentant de section syndicale et puis dépôt de liste. Il n'y a pas eu de.
D'attaque patronale.
D'attaque patronale, ouais.
Si, ils ont contesté les statuts de la CNT, évidemment.
Il y a déjà une jurisprudence là-dessus, donc voilà. Ça va.
Je pense qu'ils sont juste interrogés de savoir si ça couvrait leur secteur d'activité. Et voilà, parce que normalement, d'ailleurs, pour les élections professionnelles, ils sont censés inviter tous les syndicats qui peuvent être représentatifs et qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Mmh. Et forcément, ils n'invitent que les syndicats qui sont représentatifs à négocier le protocole d'accord préélectoral. Et ça, la CNT n'a jamais été invitée pour ça.
Voilà. Et maintenant, la représentativité, c'est sur le résultat des élections dans les entreprises.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et les TPE-PME aussi, parce qu'il y a les élections TPE-PME, comme il y a des petits studios d'animation aussi, mais ça ne représente pas énormément de voix. En fait, ce qui nous fait avoir beaucoup de voix malgré nous et de la représentativité au niveau national, c'est le fait que les gens ne votent pas, en fait. Parce que nous, on est une grosse boîte, donc quand les gens votent pour nous, ils votent pas forcément massivement d'ailleurs, mais ils votent, et sur 900 salariés, il y en a 200 qui votent pour nous. Sauf que dans l'animation en général, avec les TPE-PME, sur 2000 appelés à voter, il y en a 60 qui votent réellement. Donc notre boîte elle a un poids énorme en fait. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dit en fait quand on est arrivé au CIPMCS, on avait dit... potentiellement on peut avoir de la représentativité juste par nos voix quoi. Et ils ont tous rigolé, ils ont fait oui on verra quand ça arrivera. Mais ce qui est normal. Et notre but c'est pas d'avoir de la représentativité, c'est le but. Mais on savait que potentiellement ça allait nous amener à aller dans les conventions collectives, d'avoir un mandat et de négocier, et que prendre cette responsabilité si elle se présentait quoi. Donc on avait très bien conscience que ça arriverait peut-être, et qu'on serait amené à le faire, et que on pouvait pas la laisser cette représentativité à d'autres, parce que si on la prend pas, ben, c'est la CFDT qui négocie pour nous, c'est la CGT qui négocie pour nous, c'est le SNTPCT, entre autres, un autre syndicat du secteur qui négocie pour nous, et ils ne sont pas du tout orientés comme il faut, quoi. Enfin, c'est très clair. Juste pour faire un petit truc, vite fait, on a ramené un petit papier, alors les auditeurs et les auditrices ne pourront pas le voir.
Mais tu peux le lire.
Mais en gros, c'était la CGT qui était venue pour la première fois manifester contre nous. Tracter contre nous, plutôt que de tracter contre l'employeur et pour nous, et qui au moment des élections, la dernière fois en 2019, était venu en bas de notre boulot pour nous dire qu'ils allaient se faire éjecter des conventions collectives. Parce que, en gros, ce qu'il dit, c'est à la suite des basses manœuvres survenues juste avant la clôture des inscriptions aux élections du CSE à Elimination McGuff, le SPIEC-CGT a été empêché de présenter une liste dans la plus grande société du secteur français de la production de films d'animation. Et en gros, il venait ça, il présentait ça aux salariés de l'entreprise qui comprenaient pas trop ce qui se passait. Et voilà, pour leur dire clairement de voter CFDT, quoi. Allez, je t'en prie.
Sachant que, pour rappel, donc, ils nous ont pas recontactés du tout, quoi, alors qu'on était une manne, justement, de représentativité énorme, et qu'ils se sont rendus compte une semaine avant, merde, au fait, c'est les élections, là, faut peut-être les contacter.
Ouais, et puis juste aussi, c'était assez dingue parce qu'on était sur des dossiers hyper importants sur les cotisations retraite, parce que j'avais pisté un truc sur une... sans rentrer dans le détail, mais sur les fiches de paye, en fait, on ne payait pas les cotisations retraite qu'on devait payer pour le pot commun des cotisations retraite au niveau sécurité sociale. En fait, on payait la même chose que quelqu'un qui était au SMIC, alors qu'on avait des salaires qui pouvaient atteindre les plafonds de la sécurité sociale. Et en fait, on s'est rendu compte que l'entreprise qui gérait les fiches de paie, en fait, avait fait un mauvais calcul. Et pendant un an, j'ai dit ça à la direction. Et ils m'ont dit, mais non, t'as tort. Et puis au final, ça s'est avéré vrai, au bout d'un moment. Et j'avais demandé au SPIAC, CGT, chez qui j'étais à l'époque, si on pouvait continuer à mener ce combat-là entre nous. Et ils nous ont dit, non, mais t'as trahi la famille, on trahit pas la famille. Enfin, j'ai l'impression, voilà, c'était vraiment la mafia, quoi.
D'autant plus que l'histoire du logiciel de fiche de paye, ça concernait beaucoup de boîtes au final. Ouais, c'était pas que notre boîte, quoi.
Est-ce que ça aurait pas pu être réglé par un référé prud'homal en quelques mois?
En fait, ça a été réglé avec les URSSAF directement. En fait, il y a eu une régulation qui a été faite sur une année. Et ça, on ne l'aurait pas eu. Alors après, voilà, certains diront que c'est des cotisations sociales mutualisées. Donc,
c'est de la paye, hein, toujours.
Que ça reste du salaire indirect, exactement. Mmh. Et puis ça reste du salaire indirect pour tous les autres mutualisés, quoi. Donc c'était logique. Et puis forcément, le patronat ne voulait absolument pas en entendre parler parce qu'eux aussi, il y avait leurs cotisations à payer.
Ça, c'est abject.
Ouais. Ouais.
Ah oui, ça...
C'est la punchline. Ouais. Mais enfin voilà. Et c'est vrai que si on a un conseil à donner, c'est vraiment les avocats. Parce que nous, ça nous a vraiment aidé de trouver je leur ferai pas forcément de la pub, mais trouver un avocat bien orienté pour nous aider. Et je pense qu'à la sein de la CNT, c'est pareil. Il y a pas mal de combats qui se mènent aussi avec les avocats et ils peuvent être de très bons alliés.
Malheureusement, je crois que le syndicalisme, ça s'oriente vers ça. C'est plus l'action collective. C'est presque une action individuelle ou de quelques personnes, et d'une manière juridique.
Ils se battent pour faire respecter le code du travail.
Partout.
Une allumette suffisait.
Eh oui.
Parfois.
Non, mais oui. Mais donc, oui, c'est. Je pense que le syndicalisme est en train de mourir. Venait de rentrer dans le syndicalisme révolutionnaire, mais. Ça fait déjà quelque temps qu'on dit que c'est en train de crever. On est super pépé.
Non, mais ça se développe quand même, le révolutionnaire.
Le pessimisme, oui.
le syndicalisme, oui, ces dernières heures, mais le syndicalisme révolutionnaire, l'autogestion, c'est des choses qui reviennent assez fort.
Je suis parfaitement d'accord.
Ouais, mais ça dépend de ce que tu mets derrière.
On est aussi nombreux aujourd'hui qu'en 1926, alors je ne suis pas sûr que...
Non, c'est sûr, mais quand tu vois dans les débats et on va dire dans la société en général, les idées qui sont véhiculées par le syndicat, par la CNT par les Rouges et Noirs, c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui adhèrent au final à ce principe-là. Même s'ils ne sont pas dans une idée révolutionnaire, La démocratie directe, c'est quelque chose qui importe chez beaucoup de personnes de plus en plus.
Et la CNT, c'est une référence respectée dans la démocratie directe, quoi. C'est quand on nous voit en manif, que ce soit d'autres orgas, ils disent « Ah, CNT, c'est bien chez vous. »
Après, il y a des repas.
Je pense qu'ils disent tous ça. Mais...
Oui, enfin, ça, bah, c'est...
Ils ne connaissent pas. Si, si, non.
Ils ne te connaissent pas, c'est pour ça.
Ils ne connaissent pas, moi, oui.
Après, on est dans un milieu qui est... Enfin, en tout cas, le film d'animation qui est assez jeune. Mm. Parce que malheureusement, en fait, les intermittents qui vivent jusqu'à 65 ans... enfin, je veux dire, enfin,
mais, qui vivent carrément, quoi.
Non, mais je veux dire, qui vivent de leur métier, pardon, jusqu'à 65 ans.
Mon temps est compté.
Non, mais c'est difficile. C'est vrai, parce que t'as beaucoup de gens, en fait, je vois très peu de seniors, en fait, dans ma boîte. Ça a toujours été le cas. Souvent, en fait, ils partent beaucoup plus tôt. Puis
mais
là,
tu vois le seigneur.
Voilà. Mais est-ce que c'est pas une politique de la boîte aussi d'avoir plutôt des jeunes?
Je pense que ça vient surtout du fait que le milieu est assez... La convention collective elle date de 2002, si ma mémoire est bonne, ou 2004. Enfin bref, elle n'est pas très vieille. Le cinéma d'animation est assez vieux, enfin, mais il date des années 1930, quoi, en gros. Les premières industries du cinéma, en tout cas à l'étranger. Et au final, l'industrie en France, enfin telle qu'elle existe aujourd'hui, vraiment, je parle d'une industrie parce qu'on est dans une usine. Enfin, on fait tous chacun une petite tâche. Enfin, c'est du taylorisme réinvente. Enfin, c'est la même chose, quoi. Et au final, ça existe depuis pas si longtemps que ça, quoi. Donc, les populations qu'il y a dans l'entreprise, sont finalement assez jeunes, quoi. Et les plus anciens d'entre nous. C'est des gens qu'on voit, mais ils sont peu nombreux au final. Et voir carrément, il y a des gens qui partent et qui font carrément autre chose. En fait.
Mmh. Ouais. Il y a énormément de reconversions. Et ils n'attendent pas 60 balais, hein. Genre à 40-45 ans. Hein. Ouais.
Si je fais une reconversion avec un petit peu de temps de travail.
Ah oui, surtout s'il meurt jusqu'à 65, comme on dit. Bravo.
Non.
Ah, c'est dangereux comme métier.
Ah, ça, s'imaginez pas.
Vivement le commerce. Hein.
Non, mais, on taquine. Hein. Voilà, je sais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une population qui est assez jeune, qui est assez dynamique. C'est un peu la même chose que dans le jeu vidéo, pour faire un parallèle aussi avec nos camarades du jeu vidéo. C'est, je pense, des secteurs qui ont vraiment... Enfin, c'est pas pour rien que le syndicat du jeu vidéo est aussi anarcho-syndicaliste. Donc, c'est les idées qui sont véhiculées par ce milieu-là, c'est assez culturel. Enfin, voilà, c'est un monde quand même artistique, culture, et assez jeune. Donc, j'ai bon espoir.
Ce qu'il y a de bien, effectivement, c'est... si c'est des secteurs qui sont... d'activités qui sont assez récents, bah effectivement, implanter le narco-syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, ça peut être bien perçu, mieux que dans des boîtes où il y a déjà une tradition syndicale et où effectivement la CNT, qui en soi n'est pas très connue, hein, merci, non mais c'était pas la peine. dans les grosses boîtes où on n'est pas très connu, effectivement, on a peur on peut craindre qu'on va essayer de prendre la place ou de se partager le gâteau avec les autres boîtes où il y a une tradition, plus ou moins une tradition syndicale. Mmh. Donc, oui, il y a peut-être de l'espoir dans les boîtes où il n'y avait pas de. Où il n'y a pas spécialement de tradition, en fait, avec des plus jeunes. Mmh. Ouais, puis les mentalités changent aussi. Ouais, bon, c'est bien, on finit sur une note d'espoir, en tout cas.
Ouais. Oui. Moi, j'ai envie d'être optimiste, oui.
Oui, c'est curieux, mais c'est oui. Non, mais un petit peu de provoque, ça fait du bien.
Bon, donc on va s'arrêter là. Mm-hmm. Bah, on vous invite à revenir quand vous pouvez. Ça sera. Vous avez des disponibilités, puis surtout peut-être après vos élections professionnelles.
Qui ont lieu quand?
Pour l'instant, il n'y a pas de date, mais logiquement, ça devrait être fin d'année.
Peut-être avant, alors. Voilà. Qui sait?
Mais je vais en avoir en octobre aussi. On va se faire un petit truc commun.
Bah ok.
On va confronter la jeunesse et la vieillesse. Bon, il est 21h01. Il n'y a pas d'émission après, donc on va pouvoir faire quelques annonces militantes. Eric va nous rappeler les permanences syndicales. Bah oui, c'est moi, je vais aller de l'autre côté pour... Vite fait.
Bon, eh bien, et c'est pas simple histoire, parce que comme j'ai pas les lunettes, chers auditeurs, Alors, qu'est-ce que je dois annoncer?
Permanence syndicale.
Oui, les permanences syndicales du 94. Donc, les permanences vendredi de 17h30 à 19h, sauf durant les vacances scolaires, les jours fériés, à la Bourse du Travail, premier étage, 27 boulevard des Alliés, à Choisy-le-Roi. Donc, il s'agit d'EPIX 94.
Un syndicat qui est bien.
Oui. D'autres permanences syndicales au 33 rue des Vignoles, dans le 20e à Paris. Le lundi de 14 à 17h, le mercredi de 17 à 19h et le samedi de 10h à midi. Et là, le samedi, c'est le syndicat unifié du bâtiment. Voilà.
Moi, je vais rappeler aux auditeurs. Je vais rappeler aux éditeurs que bah, d'abord, il y a une manif interprofessionnelle le mardi 6 juin. Donc, on vous invite tous à vous rendre à 14h à Invalides.
Moi, je serai à Auxerre.
Ah ben, chacun le fait dans les régions où il veut. Il y a aussi le 1er juin, le lancement de l'ouvrage Clément Méric, Une vie, des luttes. C'est un ouvrage qui sort 10 ans après son assassinat, son décès. Oui, son assassinat. Donc, c'est à 19h30 à la librairie Libertaria, 12 rue Marcelin Berthelot, à Montreuil, 93 100. Et le vendredi 2, il y a un concert, Brigada Flores Magón. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu parler. Enfin bon, je ne suis pas. Il y a Agnostic Front aussi.
Oh.
Ça. Ah bah oui, c'est ce que je me suis dit. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a Bull Brigade, et Syndrome 80, The Ready Meds. Je connais pas trop. Et ça, c'est les concerts de 18h à 2h du matin, 18 rue des Fusillés à Vitry-sur-Seine, dans le 94, et c'est au kilowatt. Et le samedi 3, un meeting antifasciste de 10h à 17h, la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau à Paris, dans le 10e. Voilà. Et match des équipes féminines aussi. Il y aura d'autres. Vous allez sur Internet. Twitter, je ne sais pas où, et puis vous allez trouver tout ça sur le site de la CNT, par exemple, et vous allez trouver toutes ces infos. Mais Agnostic Front, quand même.
Ah oui, hein. Et là, de New York, pour faire un concert à Vitry. Ouais. Ah, c'est pas commun, ça.
C'est pas rien. Hein. Ouais. Et puis, un autre truc aussi, 12h pour l'anarchisme, c'est le 3 juin 2023, le samedi, et c'est au LAP, donc au lycée autogéré de Paris, autour des documentaires de Tancrède Ramonet, Ni Dieu Ni Maître. Donc ça commence à 9h30 pour un accueil thé café. J'ai la peine que... Non. Voilà. Donc il y aura des débats. Avec des débats, des repas, des pauses repas, et puis un concert de Achab. Si. 20h30, 22h30. Ouais. Voilà, c'est le samedi 3 juin au lycée autogéré de Paris qui est au 393 rue de Vaugirard dans le 15e. Ouais. Voilà, métro, tram, c'est porte de Versailles. On va vous laisser là. Est-ce que notre technicienne va nous lancer le générique?
Ah oui. Mais la manifestation de dimanche aussi, il ne faut pas oublier.
Il annonce la manifestation de dimanche.
La manifestation pour Clément Méric à. Il me semble que c'est à Barbès.
Ah bah oui, j'ai pas dit, effectivement.
Ouais, le dimanche.
Bah voilà, ça c'est une information complète.
Bah oui, non, mais c'est vrai que j'ai... Mais pourquoi je l'ai pas dit? Ah oui, parce que j'ai donné que les trois premières dates, 3 juin, mais ouais. Dimanche 4 juin, manifestation antifasciste, voilà, donc à 11h, métro Barbès. Dans le 18e, et le lundi, oui, parce qu'en fait, c'est toute une semaine de six jours. Donc, le 5 juin, il y a aussi un rassemblement en hommage à Clément Méric, donc à 18h30 rue de Caumartin, métro Havre-Caumartin, dans le 9e, et mardi 6 juin, manifestation contre les réformes des retraites, c'est ce qu'on allait commencer par ça, ou un truc. Voilà, donc, les antifascistes, ne pense pas qu'à l'antifascisme, il pense aussi à tout un tas de choses, enfin, au fascisme qui vient, et le fascisme qui vient, il passe aussi par le gouvernement actuel. Donc, bah, nous, on va se retrouver la semaine prochaine, parce que comme on est le cinquième lundi, excusez-moi, pardon.
Hey, je suis pas seul, hein, quand même.
Lundi prochain, on va avoir aussi une émission, ça sera la deuxième partie, le deuxième volet de l'antiparlementarisme.
Oui, exact.
Voilà. Alors, on verra qui a comme invité. Est-ce que Frédéric sera disposé ou pas? On l'a déjà invité en tout cas. Et puis, on va essayer de travailler tout ça.
Ouais. Bon.
Ah, vraiment lancer le générique. Hein.
Bon, allez, merci.
Merci de nous avoir reçu.
Merci Cédric. Beaucoup. Merci Michael.
Salut Mickey.
À bientôt.
Ouais, ciao.
Et avait coupé ton micro.
Ciao.
Il faut plus de plus de rêve, plus de
film,
plus de
scénario. Au revoir, à bientôt.
Bisous.
On embrasse depuis la grotte.
Fraternel, nous réaliserons l'idéal du libertaire.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet!
Vive la révolution!